La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
Les 10 moments qui ont contribué à façonner les États-Unis. Par Étienne Augry, professeur agrégé d'histoire. 20e siècle. Du jazz au hip-hop, en passant par Hollywood, le siècle du soft power. Avec la montée en puissance économique du pays et ses interventions dans les affaires du monde, en particulier pendant la guerre froide, les produits culturels nés aux États-Unis connaissent un succès grandissant à l'étranger. Du point de vue de la culture, la capacité d'influence est sans doute plus efficace que toute intervention par la force. Le politologue Joseph Nye forgera en 1990 le concept de soft power pour définir cette capacité à séduire et à attirer plutôt qu'à contraindre. Pour les États-Unis, cette séduction va grandissante avec leur sortie de l'isolationnisme. La présence à l'étranger de leurs troupes, instrument du hard power, la puissance militaire, sert en effet également le soft power. Les soldats cantonnés entretiennent des liens avec les populations locales, que ce soit en Europe ou en Asie, et laissent une empreinte culturelle. Ainsi, le jazz, musique née dans le Sud et qui connaît son essor dans les grandes villes du Nord, devient populaire en Europe, alors que les troupes américaines participent à la libération du continent. Dans son sillage, de nombreux autres genres musicaux contribuent à diffuser le mode de vie américain, comme le rhythm and blues, puis le rock, et enfin le hip-hop. En ce qui concerne le cinéma, le tournant se situe dans les années 1930, lorsque de nombreux réalisateurs européens fuient les régimes totalitaires, en particulier l'Allemagne nazie, contribuant à faire de Hollywood une industrie efficace au rayonnement mondial. Le conflit mondial renforce l'américanisation de leur thématique, qui est encore accentuée par la guerre froide et son atmosphère unanimiste au service du modèle états-unien. L'industrie hollywoodienne est en effet l'une des premières visées par le macartisme et sa chasse aux sorcières anticommunistes. Avec la télévision, notamment avec les séries qui s'exportent, le cinéma devient un outil très efficace de diffusion des valeurs du modèle américain et du rêve qu'il véhicule. Près de 70% des films vus dans le monde sont issus des États-Unis.
Le savoir s'écoute sur Sirius Audio.
Au-delà de ces valeurs, c'est l'American Way of Life, le mode de vie américain, qui est également diffusé. La société de consommation, les modes alimentaires, les vêtements. Bien sûr, la force de ces productions, c'est aussi leur capacité à porter un regard critique sur ce modèle. Les cinéastes, les musiciens ou les scénaristes des séries télévisées savent parfois prendre leur distance avec le discours officiel. Pendant et après la guerre du Vietnam, de nombreux films, tels Apocalypse Now de Francis Ford Coppola en 1979, se penche sur le traumatisme des soldats. Les inégalités sociales et raciales sont également des sujets récurrents au cinéma. West Side Story en 1961. Et à la télévision, Sur Écoute, de 2002 à 2008. Le succès mondial du rap est révélateur des paradoxes de ce soft power, puisqu'il séduit de nombreux jeunes dans le monde entier, lesquels s'empressent d'en reproduire les codes, tout en dépeignant l'envers du rêve américain.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
1964-1981. Entre contestation et révolution conservatrice. Lorsque les générations nées après 1945, celles du baby-boom, parviennent à l'âge adulte, les sociétés des pays industrialisés connaissent un mouvement de fond en lien avec la croissance économique exceptionnelle et les transformations sociales qu'elle induit. Ce mouvement de contestation n'est pas propre aux États-Unis, mais il contribue à ébranler le modèle américain si fièrement défendu dans ce contexte de guerre froide. L'opposition porte sur différents aspects du modèle, outre la question des droits civiques évoquée plus haut. Si les femmes votent depuis 1920, la revendication de leurs droits, comme en Europe, suscite une forte mobilisation de la part des féministes. Elle aboutit à la légalisation de la contraception en 1965 et à celle de l'avortement en 1973 par décision de la Cour suprême. Une loi fédérale de 1972 rend illégale toute discrimination fondée sur le sexe. Avec la conscription qui contraint de nombreux jeunes à aller combattre en Asie, la guerre du Vietnam devient un enjeu majeur de la contestation. La médiatisation sans précédent du conflit aboutit à son rejet et contribue à l'impopularité du président Johnson. L'année 1968 voit la conjonction de ces différents sujets. Au printemps, des émeutes éclatent dans plusieurs villes du pays suite à l'assassinat de Martin Luther King, dans la lignée de celles qui secouent des ghettos noirs depuis 1965 à Los Angeles et à Détroit. L'été est également marqué par des violences, notamment à Chicago lors de la Convention démocrate. Le festival de Woodstock, organisé en 1969, est un temps fort musical qui sert de caisse de résonance aux revendications.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
En même temps et en réaction à ces contestations, l'Amérique conservatrice entame sa reconquête du pouvoir. Au cours des années 1960, les lois mettant fin à la ségrégation dans le Sud, initiées par Johnson, lui-même texan, font basculer les démocrates conservateurs de ces États du côté des républicains. Ceux-ci, avec Richard Nixon, reprennent le pouvoir en 1968 en n'hésitant pas à faire appel à la majorité silencieuse, celle qui n'a pas participé à l'agitation étudiante et aux émeutes urbaines. C'est un message clair envoyé aux conservateurs. La domination des libéraux, au sens américain, c'est-à-dire de gauche, sur les campus universitaires, n'a d'ailleurs pas empêché les jeunes conservateurs de s'organiser au niveau local. L'historien Romain Huret résume ainsi cette stratégie. Leur objectif a toujours été de démanteler par en bas ce que les libéraux avaient construit par en haut. Dépassant le scandale du Watergate, qui en 1974 affaiblit les républicains et ébranle la démocratie états-unienne, cette Amérique conservatrice trouve son champion en Ronald Reagan. Élu à la présidence en 1980, ce dernier met fin au cycle progressiste entamé dans les années 1930 en affichant son souhait de mettre à bas l'État-providence sur fond de retour du religieux et de discours manichéens.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
2001-2010, la fin du modèle. À l'issue de la guerre froide, les États-Unis apparaissent comme les grands vainqueurs de la confrontation avec l'URSS. Leur modèle politique, économique et social semble devoir s'imposer partout et devenir une référence universelle dans ce nouvel ordre mondial voulu par le président George Bush, le père, en 1990. Mais seule superpuissance, le pays subit logiquement l'essentiel des critiques d'un monde qu'il a contribué à façonner. Aussi, lorsque New York et Washington sont attaqués le 11 septembre 2001, il prend conscience de sa vulnérabilité. Pour la première fois depuis Pearl Harbor en 1941, le sol américain est directement menacé. Mais la réaction aux attentats d'Al-Qaïda contribue à renforcer l'hostilité envers les États-Unis. Deux offensives sont lancées par le président George Bush, le fils, dans le cadre d'une guerre contre le terrorisme, dans laquelle l'ennemi est difficile à identifier. En voulant propager par la force les valeurs universelles dont il se réclame, démocratie, liberté, économie de marché, le pays suscite le rejet de son action en même temps que de ses valeurs. En Afghanistan, refuge d'Oussama Ben Laden, la guerre est engagée avec un large soutien international. Mais une dizaine d'années plus tard, la démocratie n'est pas fermement établie et les talibans sont toujours actifs.
L'éléphant et Sirius Audio, vous allez voir ce que vous allez entendre.
En Irak, les mensonges de l'administration Bush sur les justifications du conflit ont certes abouti au renversement du dictateur Saddam Hussein, mais le nouvel État est divisé et miné par le terrorisme. Surtout, les exactions commises de la prison d'Abu Ghraib à celle de Guantanamo en passant par la surveillance des individus suscitent des critiques virulentes. L'élection de Barack Obama en 2008 ne change pas fondamentalement les données du problème, même si l'unilatéralisme des années Bush cède la place à davantage de multilatéralisme et à la mise en avant du soft power. La crise des subprimes, née aux États-Unis en 2008, se propage au reste du monde. Elle révèle des faiblesses importantes de l'économie du pays et pose la question de sa viabilité alors qu'elle est progressivement rattrapée par le rival chinois, capable 44 ans après les États-Unis d'atteindre la Lune et de plus en plus dépendante de choix et de financements extérieurs, en particulier pour la dette publique, financée par les épargnants asiatiques. Du coup, le système politique est en partie bloqué. Dans la lignée des années Reagan, une minorité très active s'élève contre tout rôle accru de l'État dans la crise. L'espoir soulevé par la première élection d'un noir à la présidence se heurte aux réalités politiques de Washington dès les élections législatives de 2010, qui voient la victoire des républicains affiliés au Tea Party, un mouvement antifiscal très à droite qui s'oppose au projet d'assurance maladie universelle et aux hausses d'impôts pour les plus riches.
Retrouvez tous nos podcasts sur notre site serious.audio.